Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL, 18h41 et on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec vous, Cyprien Signy et toute la bande, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin, l'info avec un regard neuf, curieux, inattendu, c'est la promesse jusqu'à 19h au menu Cyprien.
C'est la fin de la récré, retour au travail, mais le travail, comment ? On défait le monde vous fera découvrir votre bureau du futur. Ce soir, il y aura aussi du Mélenchon, du Bardella, et on roulera à 12 à l'heure dans les rues de Paris. Enfin, on décortiquera des légumes au scalpel, ça promet. On défait le monde, la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et pour commencer notre son du jour avec cette annonce de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, c'était ce matin chez nos confrères et amis de BFM.
On redonne la main aux entreprises maintenant pour fixer les règles en matière de télétravail, qu'on n'ait plus un nombre de jours minimal.
La fin du jour de télétravail obligatoire, la liberté pour chaque entreprise de s'organiser. Et alors que vous êtes nombreux à reprendre le chemin du boulot aujourd'hui, et ben avec l'équipe dont défait le monde, on s'est justement demandé à quoi ressemblerait la vie du bureau de demain.
On a voulu savoir si justement le télétravail avait un avenir, si c'était la fin des immeubles de bureaux et tout simplement à quoi ressemblerait en fait l'entreprise de demain.
Et pour nous éclairer sur le sujet, on a rencontré Éric Groven. Alors il est directeur immobilier des réseaux Société Générale. Et alors pour commencer, la fin du télétravail, il n'y croit, mais alors pas une seconde, pour une raison toute simple, écoutez.
Il me semble qu'en matière de télétravail, il n'y a pas de retour massif en arrière possible. Il y a une règle de bon sens facile à retenir. Plus une entreprise fait de jours de télétravail par semaine, et moins elle a besoin de surface. Certaines entreprises ont commencé à rendre 15, 20, 25% de leur surface. On ne va pas reprendre de nouvelles surfaces pour reloger des collaborateurs qui auraient été en télétravail. Techniquement, ce serait vraiment compliqué.
Donc, on a des entreprises qui ont rendu un cinquième de leur surface. Mmh. Les bureaux qui existent toujours, en revanche, on en fait quoi ? Ils vont disparaître à terme ?
Alors non, je vous rassure, on ne va pas tout détruire ou raser la défense, par exemple, même s'il y en a qui aimeraient. En revanche, on va tout refaire, tout repenser. Voici le bureau de demain, selon Éric Groven.
Il faut que le bureau inspire confiance, que le bureau apporte de nouveaux services. Alors, des espaces collaboratifs qui sont chaleureux. On parle d'ailleurs de prendre des codes d'aménagement des grands hôtels. Comme les gens aiment bien aller dans les hôtels, et en particulier dans les beaux hôtels, ils aimeraient plutôt retrouver ça dans leur vie quotidienne, s'ils le peuvent. Et puis aussi des services, conciergerie. Imaginez la possibilité que vous auriez que l'on vous livre vos colis sur votre lieu de travail plutôt que d'aller les chercher à la poste quand elle est fermée, en dehors de vos horaires de travail. Mais également, espace végétalisé dans lequel on peut pratiquer du sport. Il n'y a pas d'avenir pour les tours monoblocs à l'ancienne qui faisaient des bureaux du rez-de-chaussée au 36e étage. Et on peut imaginer une zone de commerce, puis un premier hôtel, des bureaux, des appartements et un rooftop. C'est comme ça que les quartiers d'affaires vont construire leur avenir en étant capables de se transformer autour de la mixité des usages.
Alors, la salle de sport et le rooftop, ouais, ça fait rêver.
C'est pas mal, hein.
On va en parler à la direction.
Il manque la cuisine.
Mais c'est pour quand ? C'est pour dans 5 ans, dans 10 ans ?
Ouh là là, mais non, pas si loin. C'est pour demain, voire même pour maintenant. La métamorphose est déjà en route.
Déjà, dans les programmes qui sont livrés, ces évolutions sont en place. Et donc, cette transformation-là, elle va très vite parce qu'on est face à un défi, et notamment pour les plus jeunes générations, d'attractivité. Les jeunes n'hésitent pas à changer d'une entreprise pour une autre parce qu'ils estiment qu'elle est, indépendamment des questions de salaire, hein, plus agréable à vivre, que le management est mieux veillant, etc. Il y a un vrai changement. Là, je crois que nous, managers plus expérimentés, nous devons nous adapter. Et les jeunes sont là pour nous rappeler combien ils sont exigeants.
Et bien vivement le bureau de demain.
Et on rappelle à nos patrons qu'on est jeunes.
Oui. Et qu'on est très exigeants.
Surtout. C'était l'expertise d'Éric Groven, directeur immobilier des réseaux Société Générale sur RTL.
RTL, sous les radars.
Et tous les soirs, vous commencez à en avoir l'habitude dans Défait le Monde, une info passée inaperçue que vous n'entendrez pas ailleurs.
Oui, alors aujourd'hui, c'est le début de l'US Open de tennis. Bon, alors ça, a priori, c'est pas vraiment passé sous les radars. En revanche, Arthur, vous avez découvert une nouveauté qui nous a interpellés là-dessus.
Ah oui, à Flushing Meadows, comme d'habitude, vous savez, il y a des joueurs, des joueuses, un béton bleu, des balles jaunes. Mmh. Et pour la première fois, c'est ça, la nouveauté, des spécialistes de la santé mentale. Mmh. C'est une initiative inédite de la Fédération américaine de tennis. L'US Open est donc le premier des quatre tournois majeurs à proposer aux athlètes ses services médicaux dédiés. Ils y auront accès à tout moment durant la quinzaine new-yorkaise.
Pourquoi on s'intéresse à la santé mentale des joueurs ?
Eh ben c'est le cas de Naomi Osaka qui a tout déclenché. Vous vous souvenez, à Roland-Garros mai dernier, la numéro 1 mondiale, anxieuse, parfois dépressive, avait refusé de se présenter en conférence de presse pour, je cite, « préserver sa santé mentale ». Sanctionnée par l'organisation, la japonaise avait fini par déclarer forfait. Après cet épisode, les quatre tournois du Grand Chelem lui ont promis d'agir en faveur du bien-être et de la santé mentale des joueurs.
Et alors j'imagine qu'avec le Covid, ça n'a pas dû arranger les choses.
Mais oui, Cyprien, avec les stades vides, les bulles sanitaires ultra strictes et d'autres mesures contraignantes, eh ben, ça a pesé dans la tête des athlètes, comme Dominic Thiem ou Benoît Paire, qui s'était bien lâché sur le sujet au printemps à Monte-Carlo.
Il y a zéro ambiance, il y a zéro truc, il se passe rien. Alors vous allez tous dire oui, c'est comme la vie normale. Bah, très bien. Bah, moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment. Et là, le circuit, il est à chier pareil. Donc voilà, tout est pour l'instant à chier. Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je ne mets pas mon masque, que j'en ai rien à foutre du Covid, et là je me sens heureux.
Ouais. Le Covid, c'est à chier. Quoi. Voilà.
Le Covid, résumé. C'est nul. Bon courage, Benoît. Bon, après l'US Open, il y a d'autres tournois circuit pro qui vont sûrement adopter cette initiative dans les mois à venir.
C'est étonnant. Merci Arthur. Effectivement, l'info était passée sous les radars, c'est le terme. Une petite pause, et ensuite on va vous livrer une info pour briller au dîner. Dans On défait le monde, vous le savez, la vitesse a été abaissée à 30 km/h dans la capitale. Eh bien, on peut rouler encore plus lentement, vous allez le voir.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h49, on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Si vous nous écoutez, par exemple, là en ce moment en voiture, que vous roulez tout doux, voici une info pour briller au dîner qui va vous interpeller.
Oui, avec Laurent au volant, je vous préviens, on y va piano, Laurent.
Eh ben, allons-y, nous en parlons depuis ce matin sur RTL. La vitesse est abaissée aujourd'hui à 30 km/h dans la majeure partie de Paris. Mais attention, saviez-vous que la limitation avait déjà été plus stricte dans la capitale? Alors, il faut remonter à 1893. Bon, les premières automobiles sont là. Elles suscitent la méfiance des autorités. Et le préfet de police, Lépine, rend obligatoire à Paris le certificat de capacité. C'est l'ancêtre du permis de conduire. D'accord. Il fixe des limitations de vitesse, 20 km/h en race campagne et 12 km/h dans la capitale.
Une belle invention de Monsieur Lépine.
Pas mal, Céline. Oui.
Pas mal. Bon cours, et merci.
Une limitation qui augmente ensuite en 1899, 30 km/h en campagne et 20 km/h en ville.
Merci Laurent pour cette info pour briller.
Et je rappelle que Julien, vous devez choisir la meilleure info pour briller de la soirée.
Oui, bah je rappelle que vous ne m'avez jamais choisi pour le moment.
Non, mais celle-là est excellente, ça va être compliqué de faire mieux.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Alors ce soir, loser ou winner, vous le savez, la terrible Céline Landreau, terrible, tranche chaque jour. Elle désigne soit le gagnant, soit le perdant du soir.
Et alors ce soir, attention, décryptage de l'info et du discours politique, puisque Céline, le winner, c'est le pass sanitaire. Expliquez-nous.
Oui, le pass sanitaire qui a réussi l'exploit de rassembler ce week-end contre lui la France Insoumise et le Rassemblement National. Avec d'abord, comme chaque samedi depuis un peu plus d'un mois et demi,
les opposants au pass sanitaire mobilisés un samedi de plus. Et ceux qui sont descendus dans la rue affichent toujours la même détermination contre le pass sanitaire.
Et des élus le lendemain qui défendent ces manifestants, comme l'eurodéputé RN Jordan Bardella chez nos confrères de BFM TV.
Oui, moi je suis solidaire de gens qui manifestent pour défendre leur liberté.
Le pass sanitaire qui ne respecte pas les libertés. C'est aussi l'argumentaire déroulé par Jean-Luc Mélenchon en clôture des amphis d'été de la France Insoumise.
Nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société, dans les rapports humains.
Et de concert, les voilà, tous deux qui dénoncent l'autoritarisme du président et le n'importe quoi des mesures.
Il faut arrêter le n'importe quoi.
Ce qu'il appelle est une stratégie sanitaire et qui est une addition de sottises sans nom.
Et ce pass sanitaire, on vous l'impose dans un TGV Nice-Marseille, mais vous n'en avez pas besoin dans un RER Nice-Marseille.
Dans une inefficacité totale et une brutalité absolue.
Faut revenir à un peu de raison.
Même critique, même reproche. Oui, mais voilà, quand on est insoumis, c'est difficile d'être d'accord avec le RN et encore plus en pleine campagne électorale. Alors, même si Jean-Luc Mélenchon veut rassembler derrière son mot d'ordre, rassembler le plus possible...
Nous voulons pouvoir nous assembler avec tous ceux qui le veulent pour dire non au pass sanitaire.
Tous ceux qui le veulent, enfin, presque en fait, pas tout le monde quand même.
Et nous voulons dire que nous sommes exaspérés lorsque nous allons manifester de devoir supporter l'extrême droite et les antisémites qui racontent et font n'importe quoi. Nous en avons assez de fiche le camp de nos manifs. Gardez vos pancartes pour vous-mêmes.
Ratisser large, mais pas trop large. Et là, on se dit que la ligne de crête en politique, c'est quand même tout un art. Et que sur le pass sanitaire, comme sur d'autres sujets, l'important, ça reste de ne pas glisser.
On a compris, numéro d'équilibriste. On marque une petite pause et on continue de défaire le monde, les amis de RTL Soir, avec une nouvelle info pour briller tout à l'heure au dîner, entre le plat et le dessert. On va parler ping-pong, à tout de suite.
Julien Cellier, Cyprien Sini, on défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h54 minutes. On vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Vous écoutez RTL et on vous offre ces cadeaux. Une deuxième info pour briller au dîner ce soir.
Oui, avec Céline Ancet, ancienne championne départementale de tennis de table.
C'est vrai, ça?
Oui. C'est pas complètement vérifié comme info.
Mais c'est un peu vrai quand même, elle a le triomphe modeste. Bizarrement, vous avez choisi de nous parler de ping-pong, donc. Hein.
Oui, de vous parler d'un vrai champion. D'abord, Fabien Lamyraux, qui a réussi à conserver son titre paralympique aujourd'hui. L'occasion, donc, de vous poser cette question. Vous avez sûrement joué, peut-être pas au tennis de table, mais au moins au ping-pong.
Ouais, pas à votre niveau. En tout cas,
c'est sûr.
Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi les raquettes sont toujours rouges et noires?
Non.
Je vais vous le dire quand même. Sachez que la règle a été instituée après le succès inattendu de John Hilton. C'était au championnat d'Europe en 1980.
Ouais.
Le Britannique, a priori sur le papier, avait aucune chance de gagner. Et pourtant, il l'a fait. Il a écœuré ses adversaires avec sa raquette qui avait les deux faces de la même couleur. Ouais. Et alors, me direz-vous?
Et alors
même couleur, mais pas du tout les mêmes caoutchoucs. Et à l'arrivée, des performances et des effets très différents. Impossible pour les adversaires de lire dans son jeu. Alors depuis, les deux couleurs, rouge et noir, sont imposées à tous et avant chaque match, les joueurs doivent montrer leur matériel à l'adversaire.
Mais alors, vous qui êtes une championne départementale, championne de Vendée de ping-pong, chère Céline, je me suis posé cette question en jouant avec mon fils cet été. C'est quoi la différence entre le rouge et le noir?
En fait, c'est la différence de caoutchouc.
Mais
c'est
parce que vous jouez avec des raquettes de base, comme moi, des plagistes.
Et il faut jouer revers rouge ou coup droit noir?
Il y a des gens qui disent c'est coup droit rouge, revers noir. Mais en fait, l'intérêt, c'est surtout d'avoir deux caoutchoucs qui ont des effets très différents et que l'adversaire puisse savoir à l'avance.
À peu près.
Avec le noir, ça va jouer comme ça. Avec le rouge, ça va jouer comme ça.
C'est un truc de très très haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, tous les auditeurs qui nous écoutent et qui sont ping-pong de plage comme
nous, qui ne sont pas champions départementaux de Vendée, par exemple.
Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai dû très mal expliquer pour vous n'ayez rien compris.
Parfaitement expliqué. On a appris plein de choses. Alors, et la preuve, vous gagnez encore le duel.
Encore
des
je suis le loser de la semaine.
Mon pauvre Laurent.
On a le loser de demain, je pense.
Marche ou rêve?
Allez, chaque soir, c'est le coup de fil que nous attendons en tout cas parce que nous mettons en valeur vos initiatives, de jolies histoires et ce soir une initiative franchement pour le moins étonnante.
Oui, vous avez peur de passer sur le billard, scalpel, bistouri. Eh bien Laurent, vous avez trouvé quelqu'un qui pourrait bien réussir à calmer nos appréhensions.
Oui, Robin a pour objectif de vous rassurer, vous expliquer le métier de chirurgien. Il a 24 ans, il est actuellement en 6e année de médecine à Grenoble et depuis le premier confinement, il a lancé ses vidéos sur le réseau social TikTok. Sa mission, opérer dans sa chambre d'étudiant des fruits et légumes.
Pourquoi j'ai opéré cette pastèque ?
Emma a 27 ans et ne veut plus d'enfants. On lui a donc proposé une méthode de contraception définitive, la ligature de trompe.
Pourquoi est-ce que j'ai opéré Marie ?
Marie est sur le point d'accoucher, mais le rythme de son bébé ralentit beaucoup trop. Il va falloir qu'on procède à une césarienne en urgence.
Emma, la pastèque, Marie, l'orange. Robin est en ligne avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez plus de 250 000 abonnés sur le réseau social TikTok. Et avec votre blouse de chirurgien, le scalpel en main, vous créez dans des vidéos de 30 secondes tout un univers autour de ces fruits et légumes. Racontez-nous.
Oui, absolument. Alors le but à la base, c'était vraiment pas de médicaliser tout ça. Je faisais initialement tout ça pour m'amuser, où je mettais en scène des fruits avec une suture. C'était vraiment pour m'entraîner à suturer. Et puis j'ai trouvé le concept vraiment intéressant d'essayer de transmettre un peu ce monde-là à la population générale, aux gens qui sont pas habitués au monde médical, de montrer un peu comment ça se passait, comment se déroulaient des opérations plus ou moins communes.
Donc si je comprends bien, Robin, quand vous opérez un légume, vous montrez à Cyprien, par exemple, s'il doit avoir une opération du genou, avec le légume, ce qui va se passer exactement.
Ouais, c'est ça. Je vais essayer de. Donc, un fruit anatomiquement, c'est pas très complexe. Du coup, je vais essayer de l'améliorer avec des bonbons, par exemple, d'autres fruits, pour essayer de représenter les structures anatomiques qu'on peut retrouver dans le corps humain. Et voilà. Et je pourrais, par exemple, expliquer à Cyprien comment fonctionne son opération du genou à travers un fruit.
C'est vrai que ça surprend. Il y a un côté très didactique, mais très rassurant aussi. C'est ça le but, c'est de rassurer les gens.
Ouais, parce que tout le monde n'est pas forcément capable de regarder une opération médicale, une opération chirurgicale avec du sang sur un vrai humain. Ça peut être,
moi, je tombe
ça
dans
peut
les
être assez perturbant. Et donc oui, j'essaie d'être le plus ludique possible pour que ce soit le plus facile à tout le monde pour comprendre. Et oui, c'est sûr, un fruit, c'est, je lui mets des yeux, un visage plutôt empathique et ça fonctionne bien.
Ouais, c'est ça, c'est que vous préparez tout au final, le scénario et le matériel que vous pouvez récupérer à l'hôpital.
Oui, absolument, c'est du matériel que je récupère à l'hôpital qui est exactement le même qu'on utilise pour faire des opérations ou des sutures aux urgences, des gants stériles. Mais c'est du matériel qui est mis à notre disposition pour apprendre, mais qui va être jeté donc parce qu'il est déstérilisé. Donc plutôt que de le jeter, je le récupère.
Et quelle est votre prochaine opération, Robin?
Ah, je vais probablement faire, on va être dans de l'infectio, sûrement un abcès sous-cutané qu'il va falloir drainer, je pense.
Et alors, avec quels fruits et légumes?
La papaye me tente bien, ça n'a pas été réalisé en fait.
C'est exotique.
Quel sera son petit prénom?
Oh bah, il faut voir, peut-être Julien ou Cyprien, pourquoi pas.
C'est un défi, hein.
Génial.
Bravo Robin pour tout ce que vous faites. On peut retrouver vos vidéos sur le réseau social TikTok, votre compte Fruirurgie.
Et certaines vues par plus de 3 millions de personnes, hein, quand même.
Exactement.
Ouais, j'ai eu de la chance. Merci beaucoup.
Bravo Robin, merci. Hein.
Au revoir.
Merci Robin et merci à vous les amis dont défait le monde pour ces 5 fruits et légumes par jour. On se retrouve tout à l'heure à 18h40, pas tout à l'heure, demain.
C'est
déjà
Julien.
Presque tout à l'heure. On se retrouve demain 18h40 pour de nouvelles aventures, pour défaire le monde à de demain. Nouveau dans RTL Soir.